Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anaïs Voigilis. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Chercheuse associée au CEREJ de l'IAE de Poitiers. Face à vous, Ronan Lemoyle. Bonjour Ronan.
Bonjour.
Fondateur d'Épopée Gestion, fonds d'investissement régional. Et dans quelques minutes, va nous rejoindre Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens. Alors je le disais, le grand sujet de cette émission, ça va être la bombe démographique après la publication des prévisions à horizon 2070 de l'INSEE. La bombe démographique est-elle en train de devenir le sujet économique numéro un, avec ce point de bascule, hein, à partir de 2037, la population française va baisser. On va perdre jusqu'à 3 millions d'habitants à horizon 2070. Ça pose énormément de questions, bien sûr, on va les balayer tous ensemble ce matin. Mais première question assez simple, hein. Est-ce que le vieillissement, Ronan, allez, je commence avec vous, est-ce que le vieillissement devient le problème numéro un économique en France ?
Bah, moi, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui ça m'aspire surtout, ce que je ne peux pas empêcher de demander, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Et je pense que ce que ça veut dire, c'est que pour une partie en tout cas, il y a un manque de confiance en l'avenir. C'est-à-dire quand une population commence à décliner, quand on commence à avoir des projections de population en baisse, ça veut dire que finalement une partie de la jeunesse, une grande partie de la jeunesse, ne croit plus finalement en l'avenir, fait moins d'enfants, et donc on voit la population décliner à terme. Donc le premier élément intéressant, je pense, c'est ça, c'est pourquoi. Je pense que c'est un élément fort, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus de perspectives d'avenir, on ne voit plus de projets, on ne voit plus de sens finalement à faire des enfants, et donc c'est ça qui amène à la situation dans laquelle on va potentiellement se trouver à l'horizon que vous évoquez.
C'est pas un sujet national, hein, c'est un sujet
non, mais par contre, c'est intéressant, parce que ça pose les bases...
toutes les sociétés occidentales.
Voilà, ça pose les bases de tout le reste. Et une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on s'y prend effectivement pour redonner un petit peu d'élan et faire en sorte qu'on ne soit pas dans une impasse? Alors, il y a le sujet de l'immigration, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Il y a aussi le sujet, je pense, de redonner des perspectives sur ce que le pays peut être capable de créer comme richesse, comme emploi, pour ces seniors sans doute, pour la jeunesse demain. Il y a un grand sujet qu'on appelle la réindustrialisation de la France et dont on parle régulièrement partout. Je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut vraiment ouvrir. Il n'est pas ouvert comme il devrait l'être. C'est-à-dire qu'on voit des petits plans ici ou là naître portés par l'État sur des enveloppes insuffisantes et qui génèrent d'ailleurs des déficits additionnels qui seront de l'impôt demain. Et je pense, c'est un peu ma marotte, qu'on devrait plutôt s'appuyer massivement sur les grands enjeux de transition qui sont devant nous, sur les grands enjeux que ça suppose en termes d'investissement productif, industriel, dans l'énergie, et faire en sorte que tout ça soit un élan important pour générer de l'emploi demain. Donc je pense qu'il y a un diagnostic qui c'est forcément un manque de confiance en l'avenir quand on voit ça se dessiner. Et puis malgré tout, et c'est ça le paradoxe, il y a des perspectives très positives sur lesquelles on pourrait s'appuyer, qui sont ces énormes enjeux de transition auxquels on fait face, cette production, d'indépendance énergétique par exemple, et tous ces sujets qui peuvent générer demain des grands sujets d'investissement et donc générer de l'emploi pour les seniors, pour les plus jeunes, et donc éviter peut-être, en tout cas j'espère, cette impasse vers laquelle on se dirigerait.
Ouais, on voit que ça va peser en tout cas évidemment sur la croissance. La Commission européenne estime déjà que le vieillissement pourrait retirer 0,2 points de croissance par an à la France. Est-ce qu'on sous-estime aujourd'hui le choc à venir qu'est le vieillissement de la population, Anaïs Voigilis ?
Je ne sais pas si on le sous-estime, en tout cas, vous l'avez dit, c'est quand même pas uniquement un problème français, c'est un problème européen. On voit la même chose en Allemagne, en Italie, on voit... également ce problème démographique qui se pose en Chine, hein, ça va interroger le modèle chinois dans les années à venir, surtout un modèle fondé sur les surcapacités de production. On le sous-estime dans le sens où on n'a pas encore pris l'ampleur du choc, mais pour moi ça va poser d'une certaine manière trois défis. Un premier défi qui va être un défi de répartition géographique, parce qu'en fait la question de la natalité ne va pas se poser de manière uniforme sur le territoire. On a des territoires qui vont continuer à attirer des populations, soit via l'immigration, soit des personnes en France qui vont continuer à s'y installer, avoir des enfants, etc. Ce qui, pour revenir sur la question de l'industrie, pourrait poser une double peine pour l'industrie. Un vieillissement dans des territoires où l'industrie s'implante, parce qu'on ne déplace pas une usine comme on déplace d'autres activités, dans un secteur qui peut lui-même avoir des difficultés de recrutement. La deuxième chose, c'est que cette question de la démographie, c'est une question de remise en de questionnement de notre modèle social. C'est-à-dire qu'on a quand même un modèle social qui est fondé sur une démographie dynamique, positive. Aujourd'hui, la tendance s'inverse, donc c'est toute de la question qui vont être posées, qui se posent avec les retraites. Et donc, comment on fait fonctionner une économie qui ne grandit plus? Et ce qui nous amène à un troisième sujet, c'est pas tellement la quantité de travail, mais la question de la productivité, parce qu'il y a des pays qui déclinent. Je vous parlais de l'Allemagne, on peut donner l'exemple du Japon, on peut donner l'exemple de la Corée, et pour autant qui continuent à avoir de la croissance. Donc, c'est l'adaptation de l'économie, finalement, à ce problème démographique.
Donc, c'est possible, on n'est pas foutu, quoi. Il y a des solutions, quand même.
Il y a des solutions, et la dernière chose, c'est faire attention, parce que la première réaction, Emmanuel Macron avait parlé du réarmement de la France, ça serait une injonction à la natalité.
Oui.
Alors, je pense qu'il y a toute la question du cadre, hein, c'est ce que vous souleviez, la question du logement, la question du coût de la vie, la question de la stabilité professionnelle, et aussi, certainement, une certaine angoisse chez les générations, les jeunes générations, avec la question climatique, qui aujourd'hui n'est pas résolue et qui est franchement un repoussoir. On se demande dans quel environnement les enfants vont grandir. La question géopolitique, on est dans un monde particulièrement angoissant. Et donc, au-delà de l'injonction nataliste, c'est comment on donne un cadre, et un cadre à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale, qui donne envie de croire en l'avenir.
Ouais, donc on le voit, hein, c'est quand même des grandes questions fondamentales de société qui se posent là face au vieillissement de la population. Une des solutions, c'est ce qu'indique l'INSEE, le COR, c'est l'immigration. Quand la natalité baisse, ça recourt accru à l'immigration, sauf qu'on voit qu'il y a quand même des tensions politiques assez fortes.
Oui, ça c'est vrai. Deux points, comme pour reprendre deux exemples, le logement par exemple et l'industrie. Je pense qu'on est un pays aussi dans lequel l'Europe, je change large, mais notre pays en particulier, qui a tendance à trop fonctionner par la norme. C'est-à-dire qu'on a tendance à tout vouloir normaliser. Alors sur le logement, on ne va pas revenir sur toutes les contraintes qui pèsent depuis quelques années maintenant et qui amènent à la situation dans laquelle on se trouve, c'est une pénurie de logement et donc un gap qu'il va falloir franchir les années qui viennent qui est incroyable. Sur l'industrie, moi je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on a aujourd'hui une manne hyper importante pour la financer via l'assurance vie et autres et qu'on s'ingénie à faire des programmes de quelques dizaines de milliards alors que ce n'est pas à l'échelle de l'enjeu qui encore une fois sont financés par les déficits publics. Donc, je pense qu'on se met nous-mêmes des carcans qui, quelque part, nous empêchent de peut-être concentrer le pays. Ça m'amène au sujet de l'immigration, sur des sujets qui sont des sujets régaliens de l'État. Et l'État se concentre sur la justice, la sécurité, les politiques migratoires et comment on assure une bonne intégration, la formation de la jeunesse. Et laisse peut-être libérer un peu plus ses énergies sur la partie économique pour faire en sorte, effectivement, qu'on évite ce gap. Si on pense que l'État, c'est un peu le rôle qu'on a voulu le faire jouer, il peut tout faire, je pense qu'on se trompe. Alors, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand je dis ça, mais malheureusement, j'ai le sentiment qu'on est un peu dans la caricature de cette situation depuis maintenant quelques temps. Et effectivement, peut-être qu'une des solutions, pour le coup, c'est peut-être de venir vers l'immigration, sans nier malgré tout ce que ça inspire aujourd'hui, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus être...
Il s'agit pas on a l'extrême droite qui est aux portes de l'Élysée pour 2027.
Si on est un peu démagogique, effectivement, on s'engouffre dans la brèche, on dit effectivement, allons-y follement, l'immigration est la solution. Si on est un peu pragmatique, on dit, il y a malgré tout aujourd'hui des questions qui se posent en France, chez les Français, qui sont des questions sécuritaires, des questions qu'ils assimilent peut-être trop rapidement à l'immigration. Il s'agit donc que l'État se recentre sur ces sujets, dit comment une politique migratoire bien choisie, avec une bonne intégration, des politiques de formation, des perspectives qu'on donne, peut être une solution en tout cas partielle au sujet qu'on peut avoir d'un point de vue démographique. Et là, on peut faire des choses. Mais je pense que dans la manière d'aborder la question ou d'amener le débat sur la table, il faut être assez vigilant parce qu'on pourrait vite tourner pour un démagogique si jamais, en tout cas, on ne prend pas quelques précautions oratoires.
Évidemment. Alors qu'Olivier Babeau nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Olivier, je rappelle, président de l'Institut Sapiens. On continue de décrypter les conséquences de cette bombe démographique qui nous attend avec la réduction du nombre de la population d'ici 2037. C'est demain, Olivier Babeau.
Alors, c'est demain, et ma première réaction, c'est quand même une réaction de colère, parce qu'en réalité, ça fait extrêmement longtemps qu'on sait tout ça. Ça fait même depuis la décision de la retraite à 60 ans et non pas 65 ans qu'on savait qu'il y avait un problème. J'ai la chance d'être le fils de l'économiste André Babeau, qui au tout début des années 80 a écrit un livre qui s'appelle « La fin des retraites », où il avait déjà, il suffit de lire l'introduction, parce que c'était donc il y a 40 ans, et il explique exactement ce qui est en train de se passer, où il dit le risque, c'est qu'il y ait une opposition d'ailleurs intergénérationnelle et donc un problème social. On avait à l'époque fait les additions. Ça fait assez longtemps que notre démographie n'est pas bien orientée et que les conséquences sont assez inéluctables. Ce qui m'étonne le plus, c'est la capacité d'une partie de l'échiquier politique à continuer à être dans le déni.
C'est le déni, c'est la question que je vais vous poser.
La solution puérile du les riches paieront, etc., néglige totalement la taille des grandeurs en jeu, en réalité. Et donc, il y a évidemment trois solutions. On cotise plus, mais c'est déjà extrêmement élevé. Quand vous êtes jeune, vous cotisez 28% de votre salaire. Et on vous dit en plus, attention, ça va disparaître, il va falloir que vous cotisiez une deuxième fois pour votre retraite par capitalisation, ça commence à faire beaucoup. Évidemment, baisser les pensions, à terme, ça va probablement être une des solutions, c'est-à-dire qu'on va baisser, on va désindexer les pensions les plus élevées. Ça veut dire que le principe de, comment dire, de correspondance entre vos cotisations et ce que vous touchez à la fin va être de plus en plus érodé, probablement à la fin. Ce à quoi vous aurez droit, c'est une sorte de minimum vieillesse collectif au même niveau, quel que soit votre niveau de cotisation, ce qui, légitimement, pour ceux qui ont beaucoup cotisé, va quand même provoquer une forme de refus.
Voire de sécession.
De sécession, exactement. Ce système est extrêmement mal orienté. Vous avez peut-être parlé de l'immigration déjà, ce qui est évidemment une des questions. Hein. Est-ce que si on diminue, on vieillit cette immigration sur le principe, très bien, si elle est différente de celle d'aujourd'hui, parce qu'en pratique, les études montrent que sur l'ensemble du cycle de vie, malheureusement, c'est plutôt un coût net, compte tenu du fait que le recours au logement social...
Alors ça, c'est une vraie question, ça. Est-ce que l'immigration rapporte de l'argent ou en coûte plutôt? Il y a un véritable débat entre économistes et ces mesures. Et donc vous nous dites que...
À l'heure actuelle, et comme dans d'autres
coûteux.
Pays, je crois, je me demande si c'est pas la Norvège ou la Suède qui avait étudié ça, mais en fait, en réalité, sur le cycle de vie, malheureusement, c'est plutôt négatif, parce qu'on a un taux de chômage qui est supérieur, et que donc c'est pas exactement celle qu'il nous faut. La deuxième
la question,
chose
c'est aussi quelle immigration ? Est-ce que c'est une immigration familiale ou une immigration
de travail
bien choisi
sûr, bien sûr. Et puis, moi, je suis obsédé, évidemment, par l'intelligence artificielle. Bon, si on pense vraiment que ça fait une révolution, ça pourrait être peut-être une lueur d'espoir, quelque part. Si demain, notre croissance explose, notre productivité explose, peut-être que nous avons une solution plus facile qu'on le croit au problème de la dépendance et de notre déséquilibre. Et on peut aussi imaginer que ça soit une données à prendre en compte dans l'immigration dont on a besoin, parce que si les robots humanoïdes qui sont en fait déjà là, qui arrivent,
oui,
qui sont déjà présents à partir de la Chine, qui vont être commercialisés, commencent à remplacer massivement tous ces emplois peu qualifiés qui sont en fait aujourd'hui les emplois en tension pour lesquels on dit il nous faut l'immigration, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on réfléchisse très très bien aux gens dont on a besoin. Typiquement, il nous faudrait quand même beaucoup plus des travailleurs intellectuels que des travailleurs manuels.
Bon, mais les robots font peut-être les deux avec l'IA.
Et les robots font d'ailleurs les deux.
Anaïs Vogelis.
Oui, je crois qu'il ne faut pas penser que l'intelligence artificielle ou les robots ou toute autre forme qui pourrait se substituer à l'activité humaine ne remplacera que les activités peu qualifiées. Il y a des métiers peu qualifiés aujourd'hui qu'on ne sait pas automatisés, comme il y a des professions ultra qualifiées qui vont être balayées par l'IA parce que l'IA résonne beaucoup plus vite pour synthétiser des textes complexes et ne fait que s'améliorer. Et je pense qu'il y a trois choses derrière ça. Un, pour revenir à la question démographique, je pense qu'il ne faut pas penser l'immigration comme une politique démographique, mais comme un amortisseur économique. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument pas opposer immigration qualifiée et immigration non qualifiée. La question qui se pose derrière ça, c'est plutôt la capacité du marché du travail à intégrer les personnes issues de l'immigration.
Avec la formation,
et on en revient aussi à la question de la distribution sur le territoire. Il y a des territoires où on a un taux de chômage qui est très élevé et ce n'est pas que lié à la question de l'immigration ou non de l'immigration, et on a des industriels qui n'arrivent pas à recruter. De la même manière qu'on a des métiers pénibles dans l'industrie, sur lequel il y a des postes à pourvoir. Ça ne veut pas dire que ces postes doivent être destinés spécifiquement à l'immigration, mais qu'on a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus, immigration ou non. Et que dans certains métiers industriels, on est bien content d'avoir une main-d'œuvre issue de l'immigration qui vient prendre ces postes. Je vous renvoie à certains métiers dans l'agroalimentaire, notamment tous les métiers liés à l'abattage d'animaux, etc. Sans rentrer dans la considération, faut-il manger ou pas de la viande pour des questions climatiques. Il y a des métiers aujourd'hui où c'est les gens issus de l'immigration qui prennent ces emplois-là. Donc ça ne résout pas tout, mais c'est une question qu'il ne faut pas évacuer. Et la dernière chose, c'est qu'on parle beaucoup de souveraineté. On ne pourra pas être souverain sans une capacité à maîtriser les compétences sur notre territoire. On a besoin de toute une palette de métiers et l'immigration est aussi une réponse à la souveraineté industrielle.
Pendant le moelle.
Je pense que le sujet de l'IA, il est très intéressant parce que si on pousse le raisonnement à l'extrême, moi je suis de ceux qui pensent effectivement que possiblement, d'ailleurs Elon Musk l'a dit, on se dirigerait, alors je ne sais pas ce que je veux, hein, on se dirigerait vers une société de l'oisiveté, c'est un peu ce
que
je veux.
Oui, c'est la grande question qui agite
poussons le raisonnement
la Silicon Valley aujourd'hui, hein, est-ce que le travail va disparaître
à terme. Moi j'ai mon associé rentre de Chine, quand il est rentré il y a 10 jours, il dit quand je rentre de Chine, effectivement entre l'IA pure, les humanoïdes et tout ce qu'on voit, d'ailleurs qui pose des vrais problèmes, y compris chez eux, parce que pour le coup, ils ont, quoi qu'on en pense, beaucoup de main-d'œuvre utilisée pour des travaux à faible valeur ajoutée. Donc, mais poussons le raisonnement à l'extrême. Si on va vers l'IA, avec Simon, qui est un sujet de productivité accélérée, donc une société dans laquelle il y aurait moins de travail ou moins de besoin de travailleurs, je pense que c'est la caricature du problème qu'on rencontre aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui solutionnera le problème de la perspective qu'on donne aux gens. N'importe qui dans sa vie, une société, un pays, une nation, a besoin de perspective, de projet dans lequel il se projette. Un destin commun, on appelle ça comme ça, puis ensuite sa propre vie dans laquelle on est capable de se projeter. Et je crois que l'IA, quand on pousse au raisonnement à l'extrême, c'est la caricature de ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'impossibilité d'une nouvelle génération de se projeter avec des perspectives, d'avoir un emploi intéressant, de pouvoir subvenir à ses besoins à la retraite. De s'opposer aussi tout doucement à la génération précédente qui aurait gaspillé les ressources naturelles, qui concentrerait, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, les ressources économiques. En fait, c'est ça auquel on assiste. Et donc, je pense que si on veut effectivement réussir à remettre tout cela dans le bon ordre, il faut d'abord un État qui se recentre sur ce qu'il doit faire. Ces missions régaliennes, je l'évoquais tout à l'heure, y compris d'ailleurs les sujets d'immigration choisis pour des sujets sur lesquels c'est important. Il faut deuxièmement une vraie politique pour le pays, une vraie politique qui soit un choix qu'on fasse, pays et Europe, un choix qu'on fasse d'une direction dans laquelle on veut aller. Et dans cette direction, il y a forcément des grands sujets autour de, là aussi j'enfonce des portes ouvertes, la réindustrialisation de notre pays au regard de ce qu'on a pu observer ces 6 dernières années, compte tenu du choc post-Covid, avec toutes les dépendances des chaînes logistiques, industrielles qu'on connaît vis-à-vis d'autres grands pays, la Chine en faisant partie, et les États-Unis également. Et ça, je pense que c'est les deux thématiques importantes. Remettre l'État là où il doit être, redonner de la capacité de faire aux industriels, qui suppose deux choses. Un, une politique industrielle réelle. Deux, libérer les financements qui permettent d'accélérer cette politique industrielle. Et c'est pas les financements publics, c'est pas les finances publiques qui vont le permettre. C'est l'argent privé. Mais ça, c'est une manière de réconcilier la retraite par capitalisation, qui existe déjà, ça s'appelle l'assurance vie, avec les besoins de leur face. Parce que ces besoins, ils sont colossaux. Et donc, on est face à une situation complexe, difficile, lourde. Et en même temps, on n'a jamais eu autant d'opportunités devant nous. Donc, je pense qu'il y a une équation qui existe aujourd'hui, qui permettrait, alors il faut aussi sans doute un projet d'abord, donc une fois qu'on aurait ce projet, de remettre un peu de tout aligné pour effectivement éviter d'aller, pour reprendre mon point tout à l'heure, vers une société qui n'aurait pas d'autre perspective que l'oisiveté.
Évidemment, la présidentielle va être l'occasion de développer pour chacun des candidats ce projet de société pour, en tout cas, les 5 années à venir, ce qui est un horizon assez court terme. Mais ce que j'entends de ce que vous me dites tous les trois ici autour de la table, c'est qu'il y a quand même un véritable sujet générationnel. François Villeroy de Gallo, l'ex-gouverneur de la Banque de France, avait parlé de gérontocratie, c'est pas un mot qu'on entend souvent dans la bouche d'un banquier central. Est-ce que c'est d'abord et avant tout ça l'urgence, Olivier Babeau ?
Je crois qu'il y a aujourd'hui, on le voit parce que ça se traduit aussi électoralement parlant, puisque les jeunes votent beaucoup aux extrêmes. Il y a une forme de méfiance, d'insatisfaction et peut-être de rupture de génération qui est assez compréhensible. Avoir 20 ans en 2026, c'est pas facile. On vous explique qu'effectivement, du point de vue immobilier, vous ne pourrez jamais élever une famille là où vous avez grandi. Vous allez devoir être repoussé de plus en plus loin. Même la perspective de devenir propriétaire, si vous n'êtes pas héritier d'une façon ou d'une autre, même si vous avez fait beaucoup d'études, que vous êtes un couple qui travaille, biactif, devenir propriétaire et élever une famille dans une grande ville paraît extrêmement difficile, alors que c'était possible évidemment pour nos parents ou nos grands-parents. La deuxième chose, c'est qu'on leur explique que la retraite, ils vont devoir, comme j'ai dit, cotiser deux fois. Ça commence à faire un peu lourd sur le salaire. On leur explique que s'ils travaillent beaucoup, on va leur prélever toujours plus. Donc finalement, s'élever par le travail sous nos latitudes en France est extrêmement difficile, est extrêmement long. Et puis la troisième chose, maintenant, c'est quand même qu'il y a une forme de job apocalypse des juniors qui commence à se dessiner.
Que vous partagez ou pas, face à l'IA, face à l'intelligence artificielle.
Je partage cette crainte et je crois qu'elle a déjà lieu dans certains endroits. Moi, je ne croise que des chefs d'entreprise qui m'expliquent qu'ils n'ont plus besoin de juniors en ce moment et qu'ils ont considérablement ralenti l'embauche des juniors. Alors, ça doit être dépendant. C'est vrai que c'est plus fort, je sais pas, dans les cabinets d'avocats, dans le conseil, dans certaines activités. Mais, je sais pas, j'ai vu récemment, ce week-end, l'analyse financière. Bon, bah voilà, on n'a plus besoin d'une même nombre de jeunes, donc ça fait quand même beaucoup. On dit aux jeunes, ah oui, et à ce propos, l'économie n'a même plus besoin de vous. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Ça va évidemment se traduire dans des formes de contestation et protestation contre l'équilibre. Aujourd'hui, c'est la fameuse opposition contre les boomers qui est un débat qui est complexe, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Voilà.
Vous réagissez beaucoup sur mon compte Twitter, et n'hésitez pas à @lejeanra. J'ai Alternance qui nous dit que le taux d'emploi des 15-24 ans est passé de 54% en 1975 à 30% aujourd'hui, alors que sur la même période, le taux d'emploi des 50-64 ans est lui passé de 58% à 70%, ce qui me semble un chiffre peut-être un peu élevé, mais on n'est pas très loin. Le problème n'est-il pas l'entrée sur le marché du travail, nous demande Alternance. Anaïs Vagilis.
C'est vrai que c'est une bonne question. Moi, Je ne suis pas convaincue qu'il n'y ait plus de place pour les jeunes. La question, c'est plutôt quel métier et quelle perspective. En fait, on a formé pour un certain nombre de métiers qui, aujourd'hui, sont en train de se transformer sous l'effet de l'évolution technologique et de l'IA. Mais il y a une quantité de métiers, en fait, qu'on ne va pas pouvoir remplacer avec l'IA. Alors, peut-être un jour avec des robots, et la question se posera différemment sur la répartition de la valeur. Mais en fait, ça va être le retour aussi, la prime retour des métiers manuels. Et donc, ça va poser la question de comment on valorise ces métiers dans notre société. En fait, il y a des métiers qui ont suffisamment de valeur pour ne pas être remplacés par une machine. Et il y en a d'autres, finalement, qui peuvent être substitués par une machine. Et donc, ça risque d'être une inversion de la valeur et de la représentation de certains métiers. Donc, ça oblige à questionner quel est l'appareil de formation, qu'est-ce qu'on valorise dans notre société et comment on le rémunère. Il y a, vous allez dans toutes les usines de France, une quantité de métiers qui ne pourront pas être remplacés par l'IA. Alors, bien entendu, les métiers dits fonction support, on va pouvoir les optimiser, améliorer la productivité en s'appuyant sur l'IA et tout un tas d'applications. Un opérateur sur une ligne de fabrication, on en aura encore longtemps besoin. Il y a un certain nombre de métiers. Vous allez dans les industries chimiques, les opérations de maintenance, aujourd'hui, vous ne pouvez pas les réaliser avec un robot. Vous allez dans l'industrie automobile, de la même manière, les opérations de maintenance, vous ne pouvez pas les automatiser. Vous allez dans certaines usines d'assemblage très, très, très automatisées. Il y a des métiers aujourd'hui qu'on ne sait pas automatiser. Peut-être qu'on y arrivera dans 10 ou 15 ans. Et après, ça pose la question de la société qu'on a envie de construire. Si on part défaitiste en se disant que les robots feront tout, bah très bien, organisons une société où les robots feront tout, l'IA fera tout, et on se questionnera sur la répartition de la valeur. Et donc là, on est vraiment sur une question de choix de société, mais je refuse le discours de dire « Ah bah c'est foutu, tout va être automatisé, on va être remplacé par tout ». C'est pas une société qui donne de l'espérance et qui donne la question... Et la dernière chose pour répondre à la question, oui, il y a un problème d'intégration sur le marché du travail au début. Comment est-ce que les jeunes rentrent de plus en plus tardivement aussi sur le marché du travail? On a beaucoup focalisé l'attention sur les seniors parce que c'était un sujet, et ça restera un sujet après 55 ans, sur le taux d'emploi des postes 55 ans. Et donc, on a décalé le problème sur les entrants sur le marché du travail, avec en plus une entrée qui se fait de plus en plus tardivement.
Alors, tout n'est pas foutu. Ça peut être une solution face à la baisse de la natalité aussi. C'est ce que nous dit Bob Mayer. La Chine, leader mondial dans le physical AI, l'intelligence artificielle physique, prévoit, grâce à son industrie de robots humanoïdes, de compenser jusqu'à 60% du déclin de sa force de travail à horizon 2035. Je rappelle que la Chine, c'est quand même une population divisée par deux, les projections d'ici 2100, il n'y aura plus que 750 millions de Chinois. Renaud Lemoyle.
D'abord, la Chine a déjà des usines dans lesquelles les humanoïdes fabriquent des humanoïdes. Ils ont déjà ça. Donc, et moi, je ne suis pas un défenseur de ce système. Je vois simplement ce qui se profile devant nous. J'ai aussi connu, comme pas mal d'entre nous, l'arrivée de l'Internet, pendant laquelle on disait « mais ça va être la révolution, il n'y aura plus de boulot, comment on va faire, ça va être terrible ». Et pour autant, entre guillemets, on s'en est sorti, on a réussi à développer une économie qui s'appuie sur autre chose. Donc je ne suis pas un défaitiste par rapport à ce qui est en train de se profiler devant nous. Par contre, je pense qu'il faut sérieusement imaginer que dans des métiers, effectivement, où l'IA peut jouer fortement, ça va faire une révolution dans l'emploi, et notamment chez les plus jeunes, qui vont arriver en plus avec des tâches qui vont disparaître, alors même qu'ils n'ont pas eu dans leur vie professionnelle la connaissance de comment ça se passait avant. Donc ça fait un double handicap. Et deuxièmement, sur même les chaînes robotisées, de production, je pense que malheureusement, les humanoïdes, on en aura beaucoup. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, c'est la politique de formation que l'on met en place. C'est comment on prend à bras-le-corps le sujet pour se dire, dans ce contexte, quel est le sujet, quelle est la manière dont je mets en route un programme de formation qui permet de faire face à la situation. Or, aujourd'hui, moi, j'attends de voir le début du commencement d'un sujet qui nous amènerait à dire qu'on va réfléchir à la question. Donc, je suis vraiment à ce stade-là. Personne, en tout cas en France, en Europe, j'ai l'impression, peut-être ailleurs, je ne sais pas, n'a pris le sujet à bras le corps. Mais en tout cas, il faut quand même se dire qu'on va résolument vers une société qui va effectivement automatiser beaucoup, passer beaucoup par les robots et l'IA. Et donc, il faut donc se dire sur les positifs, et moi je le suis. Il y a donc des choses qu'on pourra faire différemment. Je prends juste un exemple. Il y a des problèmes mathématiques qui ont mis 300 ans à être résolus par des mathématiciens. Demain, l'IA, c'est une formidable manière de raccourcir le temps
pour résoudre les problèmes mathématiques. Dans la recherche, c'est incroyable.
Dans la médecine, etc. Il y a plein de sujets. Mais il faut des programmes de formation adaptés.
Il y en a deux qui ont pris le sujet à corps. C'est Olivier Babeau, présent sur ce plateau, et le docteur Alexandre, qui ont commis un livre sur le sujet. Arrêtez vos études et plongez-vous dans l'IA.
Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère d'Internet. C'est une inquiétude qui ne fait que se confirmer aujourd'hui. Alors, en fait, en réalité, il y a plein de scénarios qui sont sur la table. Moi, je crois qu'à terme, en effet, il va falloir complètement revoir la répartition de la valeur, puisque il y aura probablement une forme d'automatisation d'une très grande partie de l'économie. On pourra continuer à se faire plaisir en se faisant des réunions, mais fondamentalement, le vrai travail sera fait. Il y a déjà des dark factories, effectivement, où on est plein de personnes.
Ça impressionne tout le monde, ça. Hein. C'est énormes entrepôts en Chine où il n'y a plus que des robots qui travaillent.
D'autres, ils ont dark factories. On a chacun son truc. Je note que quand on dit, oui, peut-être que dans 15 ans, ça sera fait. Mais 10, 15 ans, c'est demain. Moi, j'ai un des étudiants qui sortent aujourd'hui de Bac plus 5. Ils sont censés cotiser 43 ans et demi, si je ne me trompe pas. Ça va arriver très, très vite. 10, 15 ans, en effet, aujourd'hui, est incapable de dire à quoi ressemblera le monde dans 10, 15 ans. Il est assez raisonnable de penser que les robots humanoïdes vont être très présents dans 10, 15 ans, parce qu'en fait, ils sont déjà, le hardware est plutôt au point. C'est probablement le software qui est peut-être le moins au point avec la représentation du monde physique, mais ça va arriver assez vite. Le robot qui change un chauffe-eau, ça va arriver de la façon qu'ils peuvent visser des boulons, etc. C'est pas tout de suite le cas, et peut-être qu'il est un peu plus protégé, effectivement, que le marketing, la communication, les gens qui sont dès maintenant, aujourd'hui, remplacés. Ce qu'on peut dire, c'est que avant que le monde devienne un monde d'oisiveté complète, il va falloir qu'on s'adapte beaucoup, qu'on soit agile, qu'on soit curieux, qu'on continue à apprendre, parce qu'il va y avoir, c'est la destruction créatrice schumpeterienne, mais dopée et au carré, puisque ça va être beaucoup plus rapide, ça va être intensif, ça va être des nouvelles compétences qu'il va falloir acquérir probablement peut-être en permanence toute sa vie. Et la dernière question subsidiaire, c'est quelle est la part de la population qui est capable d'avoir ce genre de vie ?
Et puis une autre question, c'est comment redresser nos comptes publics si on n'a pas assez de monde qui travaille ?